Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good Morning Business, le grand entretien.
Il est 8h18 et on cherche, vous le savez, des économies. On cherche des économies parce que la dépense publique flambe, comme on vous l'a expliqué hier, et que ce matin, Gabriel Attal réunit son gouvernement pour réfléchir justement à ces économies, notamment en matière du marché de l'emploi et de la réforme de l'assurance chômage. Nous sommes avec Philippe Dessertine, directeur de l'Institut de la Haute Finance, et Bertrand Martineau, expert associé à l'Institut Montaigne, spécialiste du travail et des questions sociales. Alors on va commencer effectivement par savoir si c'est une réforme pour l'emploi ou une réforme pour les économies.
En tout cas, on attend un cinquième tour de vis sur les question du chômage depuis 2017. Bertrand Martineau, est-ce qu'on s'attaque la durée, question de la durée des indemnisations, comme on l'entend ces derniers jours, est-ce que c'est le meilleur chemin à prendre ?
Alors, déjà, il y a, donc, vous l'avez rappelé, il y a des réformes très importantes qui ont été faites sur l'assurance chômage, à la fois sur les conditions d'éligibilité, la durée, et aussi, c'était très important, sur le niveau de remboursement pour les chômeurs dits récurrents. Parce que c'est là qu'il y avait le plus d'abus, on va dire, à la fois de certains chômeurs, mais aussi d'employeurs hein, qui utilisent le système d'assurance chômage pour faire de la flexibilité en fait, ce qui est pas une bonne façon de faire. Aujourd'hui, au niveau du niveau des allocations, bon, qui sont d'un peu plus de 1000 euros net en moyenne, hein, c'est quand même très faible. On est dans la moyenne européenne à peu près. Au niveau de l'éligibilité, on reste quand même plutôt généreux, mais enfin on est
à 6 mois sur les 2 ans.
Voilà,
faut travailler 6 mois au cours des dernières années.
Ça fait partie des systèmes relativement généreux, mais c'est la contrepartie d'un marché du travail qui est devenu beaucoup plus flexible. C'est-à-dire que quand vous avez un marché du travail très flexible avec beaucoup de mouvements et des séparations de contrats de travail beaucoup plus faciles, aujourd'hui on a un droit du licenciement très souple. Ben c'est assez normal que ça coûte un peu à l'assurance chômage. C'est un peu la contrepartie. On peut pas avoir les deux à la fois. Ouais. Il y a un moment, si on veut, à moins d'être tombé dans un modèle totalement anglo-saxon, effectivement. Donc là, on a plutôt un bon compromis.
Et est-ce qu'il faut faire une cinquième salve, justement ?
Alors maintenant, si on joue sur les durées maximales d'indemnisation, qui ont déjà été ramenées à 18 mois, en tout cas pour les non-seniors.
Et qu'on pourrait ramener à 14.
On pourrait ramener à 14. Ça ferait très peu d'économies, parce qu'en fait, il y a très peu de chômeurs qui vont jusqu'au bout de leurs droits.
En fait, parce que l'ADRES a quand même chiffré ça à 3 milliards d'économies.
Oui, non, enfin, je vois pas.
Bah,
non,
l'ADRES,
non.
Hein.
Oui, non, ça doit y avoir autre chose. Il doit y avoir autre chose sur dans le paquet. Voilà. Donc, on est plutôt sur quelques centaines de millions d'euros d'économies si on fait ça. Et donc, c'est pas à la hauteur de l'économie. Ça aurait assez peu d'impact sur le marché du travail. Ça ferait simplement qu'un certain nombre de personnes basculeraient plutôt dans le RSA. Plutôt que rester à l'assurance chômage.
Voilà, Philippe Dessertine, si c'est pas pour faire des économies, puisque ça ne rapporte rien, c'est peut-être
par rapport à la charge globale. Ce qui rapporterait vraiment, effectivement, c'est de diminuer les allocations chômage. Alors ouais. Ça, effectivement, mais bon.
Peut-être que ça peut permettre de pousser justement à retourner à l'emploi. On sait qu'il y a encore beaucoup d'offres non pourvues.
Oui, alors c'est, vous voyez d'ailleurs, la discussion elle est toujours un peu étrange, hein, parce que soit on parle du déficit, et là on a 154 milliards, on a une dette à 3100 milliards, on voit bien, c'est absolument pas l'échelle. On est d'accord, du point de vue politique ça peut parler, mais ça, nous on est techniciens, on parle pas politique. Hein. Donc effectivement, on n'est absolument pas dans la problématique. Après, vous êtes... Quand vous séparez, vous dites, bon, comment ça se fait qu'on ait un chômage structurel beaucoup plus fort en France? Est-ce que, par exemple, le fait que l'on ait des indemnités plus fortes empêche le retour à l'emploi? Donc, ça, c'est l'hypothèse, en disant, en fait, on est trop indemnisé, on gagne plus en ne travaillant pas qu'en travaillant, donc il faut qu'on renverse ça.
L'idée, c'est que plus on aura de salariés, plus on aura de cotisations, et donc, du coup, là, vraiment, on baisse les déficits.
Alors, normalement, vous voyez, c'était aussi une autre approche hein, qu'ont pu avoir les autres pays européens, c'est en disant, s'il y a de moins en moins besoin de cotisations, ça va permettre aussi d'améliorer la profitabilité des entreprises. C'est-à-dire, on baissait les charges sociales. Nous, non, on dit, ça va financer l'État. Entre parenthèses, on pourra revenir hein, sur le fait que l'État dise aussi, c'est moi qui vais gérer l'assurance chômage. Parce que là, vous êtes en train de dire, oui, en fait, on comprend bien le but. Hein, c'est-à-dire, c'est pas totalement éliminer les partenaires sociaux, c'est revenir dans la première partie de la discussion, comment récupérer un régime qui deviendrait excédentaire, récupérer les charges sociales pour les mettre dans le pot commun, c'est-à-dire trouver des ressources de plus. Ouais. On a déjà vu ça dans la formation, on voit très bien comment ça se passe, l'État reprend, gère pas bien du tout, mais au moins il récupère le magot.
Donc l'idée, c'est de récupérer la cagnotte.
Là, on va dire, c'est quand quand même un tout petit peu, semble-t-il, l'approche, puisqu'il faut rappeler quand même qu'on a eu un accord en novembre entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire il n'est même pas entré encore en fonction, qu'on est déjà en train de dire non, mais il faut que nous, on récupère. Donc, bon, on ne sait pas trop, hein, du point de vue des syndicats, on voit bien les syndicats qui sont certains vraiment très remontés, le MEDEF probablement moins. Donc, c'est, je dirais, là, alors là, vous voyez, on est à nouveau dans la deuxième partie, c'est-à-dire, en fait, il faut faire quoi ? Il est évident que si vous voulez repousser davantage les gens vers l'emploi, en particulier quand on évoque les seniors, vous avez la question de la rémunération lorsque vous n'avez pas d'emploi, on vient de le dire, elle n'est pas quand même complètement folle, mais vous avez aussi des éléments très importants sur la question de la formation, sur la manière dont vous allez permettre la mobilité, etc. C'est tout ça, c'est tout cet ensemble. Et là, pour le coup, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a raison de dire qu'il faut faire un séminaire complet. C'est-à-dire, on ne va pas dire qu'on est juste sur l'assurance chômage, parce que ça fait un peu, on cherche 3 à 4 milliards.
Alors justement,
répétons-le, hein, et absolument pas ce qui va permettre de basculer l'opinion que peuvent avoir les agences de notation par rapport à nous.
Alors justement, vous avez raison, on habille un peu ce séminaire, il y a la réforme de l'assurance chômage, puis il y a deux autres sujets, il y a notamment l'organisation du temps de travail, alors le télétravail, la semaine de 4 jours, des semaines différentes quand vous êtes parent avec des enfants à charge dans les familles, par exemple, monoparentales, tout ça, ça va être sur la table, puis il y a aussi un troisième sujet.
Un troisième sujet qui est la désmicardisation. Ouais. Ça, c'est le troisième sujet. Ça vous fait rire, Bertrand Martineau, la désmicardisation ?
Non, parce que c'est des sujets dont on parle depuis 20 ou 25 ans, en fait. C'est comme la TVA sociale, d'ailleurs.
Ouais. Ouais, elle revient.
Elle aussi. Revient aussi.
Bon, il n'y a pas de baguette magique. Voilà. Alors, la désmicardisation, soit vous avez une économie plus prospère qui fait des gains de productivité et vous arrivez à sortir par le haut en augmentant les salaires, soit vous modérez le SMIC. Soit vous faites un mix des deux. Mais c'est la désmicardisation.
Ou une troisième voie, c'est de faire en sorte que quand vous voulez augmenter de 100 euros votre salarié qui est juste un peu du SMIC, ça ne vous coûte pas 400 euros.
Oui, mais vous chargez sur un autre sujet, c'est que le niveau du SMIC en France a été mis à un tel niveau par rapport au salaire médian, que pour que le coût du travail reste supportable pour les entreprises, pour qu'on n'ait pas un chômage de masse encore plus qu'aujourd'hui au niveau des bas salaires, on a mis des allègements de charges. Ouais. Les allègements de charges, on n'a pas les moyens financiers de les faire sur tous les salaires, donc elles sont dégressives. Bon, donc on est dans un cercle infernal. Donc la seule solution, c'est de s'en sortir par le haut. Alors c'est un sujet de long terme, c'est qu'on retrouve une économie globalement plus prospère avec des gains de productivité, c'est quand même le cœur du sujet aujourd'hui, pour la désmicardisation. Mais ce n'est pas un sujet de finances publiques, là on est sur vraiment un autre sujet. Voilà.
Donc Philippe Dessertine, effectivement, parce que ça rejoint aussi le problème, la problématique du pouvoir d'achat. Comment on fait en sorte que travailler rapporte plus et comment on fait en sorte de sortir de cette trappe à SMIC ?
Oui, mais ça, c'est... Alors, vous voyez, mais c'est là où... Alors, bien sûr, vous avez raison ce matin de nous avoir invités tous les deux, parce qu'on voit bien qu'en fait, c'est une sorte de ping-pong, quoi. Ouais. On se renvoie, c'est ce qui va se passer ce soir. Mmh. Et d'ailleurs, le Premier ministre, j'imagine, ce soir sur TF1, essaiera de relier complètement les deux sujets. Ouais. Mais bien sûr que lorsqu'on est en train de dire il faut consommer davantage, c'est quoi ? C'est l'idée de la croissance française. Parce que la croissance française, elle est absolument pas lié aux exportations. On est ultra déficitaire. Quand on est dans une zone euro globalement très très excédentaire en exportation, nous on est ultra déficitaire. On a eu un record absolu il y a 2 ans. L'année dernière on est à 100 milliards, quoi. Pas tout à fait 100 milliards de déficit. C'est colossal. Ça veut dire que la seule possibilité de pousser la croissance, qui est d'ailleurs celle qui nous permet d'avoir une croissance plus forte que les Allemands en ce moment, c'est notre consommation intérieure. Et donc là on dit, ah oui, alors comment faire pour donner plus, notamment évidemment aux bas salaires, parce que ce sont ceux qui vont normalement consommer le plus, sur lequel on va avoir le plus de retombées, mais en disant ah oui, mais sauf qu'effectivement il ne faut pas que ce soit l'État, parce que l'État ne peut plus. Donc on est dans des espèces de logique en disant oui, alors donc on va désmigrer, alors on va pousser les entreprises, on va appeler le MEDEF. Tout ça, évidemment, vous êtes avec la question sur la gestion de l'UNEDIC, etc. Derrière, en fait, est-ce que c'est quoi le donnant-donnant ? Comment ça va fonctionner entre partenaires sociaux ? Enfin, bref, c'est la logique à la française qui nous amène finalement à des impasses, parce que c'est quand même ça, comme ça qu'il faut appeler les choses. C'est-à-dire, vous n'avez pas de relance de la consommation, vous avez des charges qui restent énormes, vous avez un déficit au maximum, une dette absolument gigantesque. La seule chose qu'on redoute, effectivement, pour le moment, c'est pas dans le tube, c'est une augmentation des taux d'intérêt, parce que alors là, effectivement, vous êtes dans le mur, mais on n'est pas loin.
Il y a l'idée quand même qui est martelée ces derniers jours par Bruno Le Maire, d'écarter quand même ceux qui ne travaillent pas avec ceux qui travaillent, pour arrêter de faire en sorte que ceux qui travaillent aient le sentiment qu'ils sont proches justement de l'assurance chômage, que ça ne vaut pas le coup de reprendre un travail. Il y a aussi cette idée-là, Bertrand Martineau.
Oui, mais chômeur n'est pas un statut. Un chômeur, c'est généralement un ancien salarié qui a vocation à devenir salarié. Donc si vous dégradez l'assurance chômage d'une certaine manière, ou trop, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, mais si vous dégradez trop l'assurance chômage, c'est pas le statut, entre guillemets, des chômeurs, vous dégradez, c'est le statut du salariat. C'est-à-dire, ça fait partie du paquet. en fait. Il faut regarder le sujet comme un paquet global. C'est que vous êtes salarié, vous avez des salaires, vous êtes au chômage, vous avez temporairement, vous avez une allocation pour laquelle vous avez d'ailleurs beaucoup cotisé. Et donc, il faut regarder le sujet dans son ensemble.
C'est jamais vu comme ça socialement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à mobiliser sur une réforme de l'assurance chômage en tant que syndicat. On a l'impression qu'il y a deux catégories.
C'est effectivement, vous n'avez jamais vu un syndicat massivement mobilisé dans la rue pour l'assurance chômage. Mmh. On peut mobiliser pour les retraites, ce qui est une préférence française pour l'inactivité d'ailleurs.
Oui,
parce que là, on parle de quelques centaines de millions d'euros d'économies sur l'assurance chômage, en jouant sur les niveaux, en faisant de 2 ou 3 mois de diminution de la durée maximale. Encore une fois, il y a assez peu de chômeurs qui arrivent à ces durées-là, heureusement. Mais on ne se préoccupe pas dans le débat quand même de la question des retraites, qui est quand même l'éléphant dans la pièce. Je rappelle qu'il y a une revalorisation des retraites.
Il y a une réforme des retraites quand même.
Oui, d'accord, mais d'abord, elle n'est sans doute pas suffisante, surtout dans une perspective où on veut augmenter le taux d'emploi dans le pays et augmenter la croissance. Et aussi, d'un point de vue purement de finances publiques, je rappelle que l'indexation des retraites au 1er janvier a coûté quand même la bagatelle de 13 milliards d'euros. Donc là, on est déjà dans des sommes un peu plus intéressantes que simplement taper un petit peu sur l'assurance chômage.
Alors justement, on va un peu élargir la focale, puisqu'on parle de faire des économies. Philippe Dessertine, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Là, on commence à parler, certains dans la majorité, de hausse d'impôts. Bruno Le Maire a dit, ça sera sans moi, on verra. Et puis l'autre idée, bien évidemment, c'est la TVA sociale qui a commencé à être réactivée par le ministre de l'Économie.
Non, mais je crois qu'il faut rappeler, j'insiste, on a le taux de prélèvement obligatoire, parce que quand on dit hausse d'impôts, on est en fait focalisé sur 3-4 types d'impôts. On a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE du monde, on peut dire. Enfin, si on exclut des pays un peu exotiques comme la Corée du Nord, mais enfin bon. Mais donc on est déjà en fait au taquet, au maximum. Alors effectivement, on voit que les Français ont une imagination totalement débordante en matière de fiscalité supplémentaire, en disant, ah oui, non, mais il y a des choses qu'on peut taxer.
Mais dans les tiroirs des technocrates de Bercy, il y a plein d'idées.
Oui, on ne fait pas que des technocrates.
Les riches.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les partis, y compris extrêmes, qui proposent des taxes supplémentaires. Ouais. Donc, moi, j'ai été au Conseil des finances publiques, j'ai vécu ça, des augmentations d'impôts début d'année, et à la fin, vous n'avez pas l'impôt qui rentre. C'est-à-dire que, effectivement, la seule solution, et donc on arrive sur la TVA sociale pour bien faire rentrer l'impôt, c'est une assiette très large.
C'est pas si mal, la TVA sociale. Si on baisse les cotisations sociales à votre parti.
Mais bien sûr que non. Enfin, bien sûr que si vous.
Mais ça n'a aucun intérêt.
Mais oui, mais on est d'accord. C'est-à-dire, ce que vous cherchez, c'est de la fiscalité supplémentaire.
Parce qu'on résoudrait le problème de la défiscalisation.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que vous faites payer aux consommateurs, effectivement, la notion.
Donc, surtout qu'on consomme trop et qu'on importe trop.
Donc, oui, non, mais non.
Ça résout plein de solutions en même temps.
Non, n'oubliez pas. La consommation est notre seule base de croissance. C'est pas l'export. Donc attention, là, vous touchez sur un truc très très compliqué sur le pouvoir d'achat. Évidemment.
Il y a quelqu'un qui nous a écouté et qui va nous rejoindre tout de suite. C'est François Omeril. On parlait des syndicats et de la manière dont ils peuvent mobiliser sur la question de l'assurance chômage. Bonjour François Omeril, vous êtes le président de la CFE-CGC. Installez-vous avec nous. Bonjour. Vous nous avez entendu discuter sur les questions d'assurance chômage. Vous discutiez avec les autres partenaires sociaux. C'est pas terminé. Gabriel Attal va s'exprimer ce soir. Il vous coupe l'herbe sous le pied.
Oui, écoutez, merci de la question. J'arrive aussi comme un cheveu sur la soupe.
Non, mais, pas du tout.
Mais en fait, oui, c'est assez inconvenant ce que fait Gabriel Attal pour plusieurs raisons. Il intervient maintenant, alors qu'on n'a eu aucun contact avec le ministère du Travail, avec qui que ce soit d'ailleurs, sur ce qui pourrait être le contenu de son discours. Par contre, on est informé en fait de ce qu'il va dire, puisqu'il l'a déjà un peu annoncé, fait fuiter. Bon, c'est la méthode maintenant.
C'est-à-dire qu'on baisse de 20% la durée d'indemnisation en gros, et peut-être qu'on ira peut-être encore plus sur les seniors, on ne sait pas trop ça.
Alors, vous voyez, vous rentrez tout de suite dans le détail, pour vous dire, voilà, vous êtes une vraie chaîne d'information, vous me donnez des informations que je n'ai pas. Mais moi, j'ai un peu l'impression que Gabriel Attal, il va annoncer que le réchauffement climatique n'existe pas et qu'il va rallumer des centrales thermiques au charbon. C'est en fait ce qu'il va dire. Ah, vous voyez, ça vous choque, ça vous étonne. Mais c'est ce qu'il va dire sur le chômage. Il va dire qu'il pense, lui, Gabriel Attal, lui tout seul, contre la communauté scientifique, car il en existe une sur ce sujet-là, qui pense tout seul que quand on tape un peu plus sur la tête des chômeurs, eh bien, ils retrouvent un peu plus facilement du travail. Or, ça, c'est faux. Il est démontré que c'est faux. Il y a une littérature très abondante sur le sujet. C'est ce qu'on appelle une idée reçue, un lieu commun de coin de bar. Et donc, Gabriel Attal va faire cette double incursion sur le sujet. Il va parler à un mauvais moment et il va dire des mauvaises choses.
Juste Philippe de Sertine, c'est vrai que c'est faux, qu'il y a un consensus pour dire que ça ne change rien.
Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est évidemment si avec ça, ce serait très simple. En réalité, vous avez tout un ensemble. Et là, en France, on a notamment cette question, par exemple, de la formation, par exemple, des seniors. Enfin, quand vous avez plus de 50 ans, on sait que retrouver un CDI, c'est extrêmement compliqué. Et là, ce n'est pas la question de l'indemnisation qui joue.
En plus de quoi on parle, il y a 2,7 millions de personnes qui sont indemnisées. Il y en a plus de 6 millions qui cherchent un emploi. Donc la question de l'indemnisation n'est pas centrale. Il faut rappeler quand même que l'indemnisation moyenne, c'est de l'ordre de 1 000 euros. C'est la moyenne de 900 euros, un peu moins, pour les gens qui ont au moins un ou deux jours d'activité dans le mois. Et 1 100 euros en moyenne pour les gens qui n'ont pas eu d'activité. C'est de ça qu'on parle quand même. Donc de quoi parle Gabriel Attal? Gabriel Attal dit n'importe quoi sur ce sujet-là. Et c'est vraiment très très grave. Parce que c'est pour ça que j'ai fait ma petite blagounette sur le réchauffement climatique. En termes d'évaluation scientifique de son propos et de son avis, c'est à peu près du même niveau d'indécence. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très très grave. Il existe, là encore, je vous le dis, des publications qui montrent que ce qu'on appelle l'ardeur à retrouver du travail, ou à l'inverse, l'aléa moral, est totalement indépendant du niveau de revenu et d'allocation qu'on touche pendant son chômage. Dit autrement, le revenu qu'on touche quand on est au chômage, c'est quelque chose, c'est l'assurance chômage pour que vous puissiez vous consacrez à 100% à votre recherche d'emploi sans avoir trop de soucis pour pouvoir vivre correctement pendant ce moment-là.
Alors, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais vous avez raison, en grande partie, mais on connaît aussi des cas partout, tout le monde m'en parle autour de nous, de gens qui, effectivement, savent utiliser les mécanismes du chômage pour travailler quelques mois, partir à l'étranger pendant quelques mois, revenir, notamment chez les plus jeunes. Ça existe quand même. Il y a quand même certains abus. Mais vous avez forcément des jeunes cadres, des enfants de vos amis.
Ça existe. Je ne le nie pas. Des effets d'aubaine, il y en a toujours. J'observe que les effets d'aubaine, s'agissant de l'argent public qu'on donne aux entreprises, ça, par contre, ça n'intéresse pas le gouvernement. Les dizaines de milliards d'euros qui sont consommés en pure perte en effet d'aubaine sur les dispositifs qu'en met en place le gouvernement vis-à-vis des entreprises, ça ne l'intéresse pas. Voire peut-être les dizaines, les centaines de milliards d'euros. C'est quand même très très grave. Donc on s'intéresse à quelqu'un qui connaît quelqu'un. Mais je veux dire, tous les premiers ministres me l'ont dit.
Les effets d'aubaine, c'est
parti. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui cherche pas du travail. Mais on ne gouverne pas comme ça.
Ça fait des décennies qu'on n'a pas d'autre idée sur l'assurance chômage que de toucher soit au montant, soit à la durée des indemnités.
Il n'y a pas non plus 50 000 paramètres. Bon, il y a beaucoup de réformes qui ont été faites sur l'assurance chômage ces dernières années. Là où je suis en partie d'accord avec Monsieur Omril, mais enfin, on peut quand même pas dire que la structure de l'assurance chômage n'a aucun rôle à jouer dans le fonctionnement du marché du travail, le niveau de chômage, l'incitation à retrouver du travail, etc. Quand même, on peut pas aller jusque là. En revanche, l'essentiel des abus dont vous parlez sont dus aux épisodes courts de chômage, c'est-à-dire des gens qui utilisent de manière stratégique l'assurance chômage pour, souvent en collusion avec des employeurs, cas des intermittents en particulier, pour maximiser un petit peu le chose. Bon, cet aspect-là a été largement réglé par la réforme de 2019 qui est intervenue ensuite en 2022 sur le calcul du montant des allocations chômage. Donc l'essentiel a été fait. Donc moi ce que je dis, c'est que on peut pas aller jusqu'à dire que l'assurance chômage n'a aucun rôle à jouer dans le niveau de chômage et le fonctionnement du marché du travail. Tous les pays qui sont revenus au plein emploi ont réformé leur assurance chômage. Ça fait partie des outils importants. Mais pour autant, c'est pas parce que vous allez passer de 18 mois à 14 mois que vous allez ramener les gens sur le marché du travail. Les gens qui sont au chômage depuis 14 mois, en général, c'est que ils ont beaucoup cherché du travail et qu'ils ont vraiment des difficultés.
Et j'ai l'impression qu'on a urgence à ne pas y toucher, en fait, à cette assurance chômage qui a déjà évolué à la fin de l'année.
Ce qui est terrible, c'est qu'il faudrait éviter de focaliser le sujet sur l'assurance chômage. Il y a tellement d'autres endroits dans la sphère publique où on peut faire des économies. Est-ce que les 20 milliards consacrés au logement sont extraordinairement efficaces en termes de politique de logement? Est-ce que la politique sur l'environnement est extraordinairement efficace?
Pour terminer sur
je parle même pas des retraites.
Pour terminer sur la réforme de l'assurance chômage, une dernière question, François Omril. On a tous dit autour de la table puis ce matin que de toute façon vous mobiliseriez pas sur l'assurance chômage. C'est vrai ça qu'au fond, c'est pour ça que le gouvernement fait ça, c'est qu'il sait que vous bougerez pas.
Ben, c'est pas faux, effectivement, qu'on n'a pas la même capacité à mobiliser sur ce sujet-là que sur le sujet de la retraite, puisque c'est le fond de votre question.
Ben oui.
Et effectivement, le gouvernement, qui est tout en tactique et en communication, forcément, a intégré ça dans son planning.
Parce que les Français sont plutôt favorables à un durcissement des règles. Enfin voilà, c'est comme ça.
Non, non, c'est pas vrai. Les Français qui sont informés dès l'instant qu'on fait, qu'on fait l'effort de leur expliquer, de faire de la pédagogie, les Français qui sont concernés par le sujet, et il y en a quand même quelques millions, c'est pas du tout ce qu'ils pensent, effectivement.
François Omeril, on vous garde parce qu'on va parler d'épargne salariale ensemble. Philippe de Sertine, Bertrand Martineau, merci d'avoir été avec nous pour discuter d'assurance chômage. Vous ne bougez pas, on revient, vous allez être accompagné par le patron d'ERES pour parler d'épargne salariale. À tout de suite.